Confrères, messieurs, mesdames, je remercie beaucoup l'abbé Troidec de ses paroles. Et je le remercie beaucoup aussi de m'avoir invité pour cette conférence. C'est pour moi une façon de... étant un fils de l'Espagne, aussi de l'Amérique, de défendre de cette épopée missionnaire qui a été la découverte, la conquête, la civilisation, l'évangélisation de l'Amérique espagnole. Évidemment, n'étant pas historien, mon but c'est plutôt de vous livrer quelques réflexions sur cet événement à la lumière de la foi catholique et aussi un petit peu à la lumière de mon expérience en tant que prêtre qui, puis évêque qui a développé son apostolat pendant 10 ans dans l'Amérique espagnole. Je pense que, d'ailleurs que ce qu'on attend d'un évêque, c'est ça, n'est-ce pas, c'est qu'il explique les choses à la lumière de la foi. Donc le sujet principal de la conférence, c'est l'évangélisation et la conquête de l'Amérique. Et il me semble qu'il faut d'abord établir un présupposé. Et c'est la conception catholique de l'histoire. C'est cela qui va éclairer notre jugement sur cet événement historique. Le pape Pie XII dit par exemple « L'Église catholique sait que tous les événements se déroulent selon la volonté ou la permission de la divine providence. » Et que Dieu atteint dans l'histoire ses objectifs. Comme le grand saint Augustin l'a dit avec une concision toute classique, ce que Dieu se propose, hoc fit, hoc agitur, et si paulatim per agitur, indesinenter agitur. C'est-à-dire, ce que Dieu se propose, se réalise, se fait. Et bien que cela s'efface peu à peu, cela se fait sans relâche. Et le pape Pie XII ajoute, Dieu est vraiment le Seigneur de l'histoire. Il est le Seigneur de l'histoire. Et cela, ce n'est qu'un corollaire du principe... théologique qui explique fort bien saint Thomas d'Aquin sur la providence divine qui s'étend à toute chose, à tout être, même les plus petits. Le gouvernement divin s'étend nécessairement à toutes les choses et donc aux événements de l'histoire. Le principe alors qui éclaire, qui peut éclairer notre jugement, c'est donc de reconnaître le gouvernement de la Providence dans l'histoire. De savoir reconnaître les interventions divines. Et même de découvrir dans l'histoire les plans divins sur l'homme. Et d'autre part, on peut conclure de ce principe que l'histoire nous révèle Dieu. L'apôtre Saint Paul, dans l'épître aux Romains, dit « Les perfections invisibles de Dieu, son éternelle puissance et sa divinité sont depuis la création du monde rendues visibles à l'intelligence par les moyens de ses œuvres. » C'est d'ailleurs pourquoi le Saint Paul récrimine aux païens leur athéisme, n'est-ce pas, à certains païens qui ne croyaient pas en Dieu, auprès de Dieu. Un deuxième principe, c'est qu'il n'y a pas d'histoire purement humaine. L'homme a été élevé à l'ordre surnaturel qui est sa fin, la fin de sa vie. Et donc la vocation de l'humanité est une vocation surnaturelle. Et cela appliqué à notre sujet, eh bien, le principe surnaturel régit, explique l'histoire. Et de là aussi la nécessité d'avoir la foi catholique pour avoir un jugement droit de l'histoire. Ce n'est pas comme certaines sciences qui ne présupposent pas nécessairement la foi. Faire la mathématique sans avoir la foi. Mais on ne peut pas faire de la vraie histoire sans la foi. Car on fait abstraction d'un principe qui est capital dans l'histoire, c'est l'élément surnaturel. Troisième remarque, le but de l'histoire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il est le centre, le Seigneur de l'histoire. Vous vous rappelez sans doute les paroles de l'apôtre Saint Paul. Tout est à vous, vous êtes au Christ, le Christ est à Dieu. Voilà l'ordre dans les desseins divins de la création et de l'histoire. Et cette domination, cette appartenance se réalise par sa royauté. Et cette royauté se réalise nécessairement par le moyen de l'Église catholique. Et donc, voilà notre principe pour la connaissance de l'histoire. Il faut juger les événements à la lumière, un rapport avec le Christ et avec son Église. Quatrième remarque, c'est que l'histoire, ce n'est que le déroulement de la lutte entre les biens et les mal. La trame interne, n'est-ce pas, de l'histoire, des phénomènes historiques, eh bien c'est cette lutte, cet affrontement, cette opposition entre la cité de Dieu et la cité de Satan. Et ainsi, par exemple, la chrétienté, eh bien c'est une incarnation, pour ainsi dire, de la cité de Dieu. Et les mondialismes qu'ils veulent nous imposer aujourd'hui, eh bien, c'est une certaine réalisation concrète de la cité de Satan. Vous voyez comme ce sont des principes qui nous expliquent les choses. Donc, il faut juger tout dans l'histoire au point de vue de notre Seigneur, au point de vue de l'Église et de la foi. Et d'après ces principes, nous pourrions faire un premier jugement donc global, général, sur la conquête de l'Amérique et dire que c'est la fondation d'une chrétienté d'outre-mer, tout simplement. C'était la fondation d'une chrétienté d'outre-mer. Et rien que ça. Enfin, vous, les Français, vous savez bien ce que c'est la chrétienté. Donc, l'ensemble de peuples qui ont été agglutinés, civilisés par l'Église catholique pendant le Moyen-Âge, et qui étaient fondés sur l'unité religieuse, le catholicisme, et sur une certaine unité politique. Ces deux choses fondées sur le pontificat et l'empire. Il y avait une langue culte commune qui était le latin. Il y avait des institutions communes qui étaient issues du génie chrétien. Des entreprises communes à cette chrétienté, comme par exemple les croisades en Orient, ou bien la reconquête en Espagne, en Occident, qui était une œuvre de la chrétienté entière. C'est donc en partie la chrétienté, c'est la réalisation temporelle de cette Civitas Dei de Saint-Augustin. C'est la société temporelle, historique, concrète qui est pénétrée de l'esprit évangélique. C'est l'accord harmonieux entre l'ordre temporel et l'ordre surnaturel, l'ordre spirituel. Avec la découverte de l'Amérique, la chrétienté s'étend à tous ces nouveaux et immenses territoires. Et c'est là juste au moment où cette même chrétienté commence à s'effondrer en Europe. Les causes de l'effondrement de la chrétienté, il y en a beaucoup, mais surtout la réforme protestante et les guerres de religion. L'unité politique de l'Europe est brisée. Et voilà, c'est là que commence la naissance de toutes les nations, et tout l'esprit moderne qui se répand partout. C'est donc un fruit tardif du Moyen-Âge. Cette chrétienté d'outre-mer, un fruit tardif du Moyen-Âge. Et c'est tout simplement une espèce, une réalisation concrète de la chrétienté catholique. Et celle-ci s'est opérée d'une façon semblable à la manière comme l'Église opéra la construction de la chrétienté en Europe, c'est-à-dire par la transmission profonde, indélébile, de la foi catholique, par la transmission de la culture occidentale, par la transmission d'une langue par la fondation des mêmes institutions qu'il y avait dans l'Europe chrétienne, par l'établissement des temples, des cathédrales, des universités. Et aussi, dans le cas de la conquête, par la fusion des races. Et ainsi, lorsque les premiers colons arrivèrent à l'Amérique du Nord pour fonder les États-Unis, eh bien, il existait déjà une civilisation catholique, chrétienne, depuis la Californie jusqu'à la Patagonie, bien avant, n'est-ce pas ? 50 ans après la découverte de l'Amérique, cela existait déjà. Et cela, évidemment, tient au miracle. Dans une si courte durée, aujourd'hui, vous voyez, pour tous les moyens de presse et tout, on dirait que la seule culture qui existe dans les Amériques, c'est la culture américaine. Américaine, les États-Unis, c'est pas comme... À tel point qu'on dit américaine et, bon, pour dire les États-Unis. Or, il n'en est rien, n'est-ce pas ? Il n'en est rien. Au XVIe siècle, l'Amérique espagnole avait été civilisée, christianisée et incorporée au monde occidental et chrétien. Et c'est pourquoi le pape Pie XII n'hésite pas à proclamer cette évangélisation comme une épopée missionnaire. Je vous lis un passage du pape Pie XII. Épopée géante par laquelle l'Espagne rompit les vieilles limites du monde connu, découvrit un continent nouveau et l'évangélisa pour le Christ. Donc il... Ailleurs, dans un autre texte, il parle d'épopée missionnaire. Voilà donc une première aperçu de ce qui a été la découverte de l'Amérique. Mais pour aller plus en détail, nous avons considéré quelque peu quel était l'état des Indiens quand les Espagnols sont arrivés. Eh bien, on pourrait la résumer la situation en disant qu'ils s'étaient plongés dans la barbarie et le paganisme. Ils s'étaient vraiment enchaînés à tout point de vue. L'ordre naturel, c'était la barbarie. L'ordre surnaturel, c'était l'idolâtrie, le paganisme. La barbarie qui arrivait à des décrets invraisemblables, incroyables. Et l'idolâtrie qui arrivait même au culte démoniaque, n'est-ce pas ? Et à ce sujet, je vais vous lire rapidement un témoignage On a accusé ces conquérants, dit Louis Bertrand, d'avoir par ignorance et barbarie détruit des civilisations précieuses, comme celle des Aztèques au Mexique et des Incas au Pérou. C'est se moquer du monde. Redisons-les encore. Afin d'accabler et diffamer les Espagnols et les catholicismes, parce qu'attention, et à l'occurrence, l'Espagne qui a fait la conquête, ce n'est pas ça. Si l'Espagne a pu faire ça, c'est parce qu'elle était catholique à cette époque-là. C'est donc bien le catholicisme qui est toujours attaqué. Et c'est le catholicisme que je défends, pas l'Espagne, nécessairement, n'est-ce pas? Et le catholicisme, alors, rendu responsable de ces prétendues destructions, on a surestimé d'une façon ridicule des civilisations rudimentaires. Peut-on considérer comme civilisés des Péruviens qui ne connaissaient pas l'écriture, qui comptaient les années ou les siècles par des nœuds faits à des cordes, des Mexicains qui usaient des enfantins hiéroglyphiques pour l'histoire et la chronologie, des peuples qui n'avaient ni bête des sommes, ni bête des traits, pas des vaches, ni des chèvres, pas des céréales, ni des vignes. Bon, ça, c'était pas sa faute, n'est-ce pas, s'il n'y en avait pas. Des peuples qui ne connaissaient pas la roue, et qui n'étaient pas arrivés à l'âge du fer. C'est que l'homme était réduit au rôle des quadrupèdes, donc il n'y avait pas de bêtes des hommes, donc c'était les hommes qui faisaient des travaux. Dont la religion sanguinaire admettait les sacrifices humains et qui avait des marchés de chair humaine. Et c'est un Péruvien qui dit ce qui suit. C'est encore plus profond, n'est-ce pas? Cette civilisation n'est connue jamais l'écriture, ni par conséquent la littérature. Pas l'écriture, pas la littérature. De ces faits, la langue ne réalisa aucun progrès. Pour la même raison, ce peuple n'eut pas d'histoire, et non plus de développement artistique proprement dit. Encore moins put-il pénétrer dans les champs des sciences et de la philosophie. Sa religion fut primitive et panthéiste. Il ne sut pas travailler le fer. L'élevage, l'industrie, le commerce, l'exploitation des mines lui demeurèrent presque inconnus. L'Incana, s'il fallait lui donner une place dans l'histoire, pourrait être appelé notre préhistoire ou, tout au plus, notre âge de bronze. C'est un Péruvien, n'est-ce pas, qui l'a dit. Or, c'est tout à fait comme ça. Par la littérature, par l'histoire, par artistiquement, c'était. Et même, bien qu'il y ait eu les Aztèques, les Mayas, les Incas, mais tous les autres, ils vivaient comme des sauvages. Même pas dans des villes, n'est-ce pas. Évidemment, il y avait quelques valeurs aussi, n'est-ce pas. Il ne faut pas. La nature n'est pas totalement détruite par le péché. Mais ce qui était bien plus grave, c'était les cultes c'est pas démoniaques, avec des sacrifices humains. Les Aztèques, par exemple, ils étaient obligés de nourrir le dieu de la guerre par le sacrifice de 50 000 victimes par année, par exemple. Et puis les prêtres, ils devaient manger les cœurs, etc. Parce que c'est la force passée. C'est pas tout. Donc c'est vraiment une fable. C'était plongé dans la barbarie. Esclave du démon. Or, c'est là que les théologiens du 16e siècle espagnol ont trouvé le double fondement à la conquête. C'est un fait assez inouï dans l'histoire, l'examen des consciences qu'a fait l'Espagne par rapport au droit qu'il avait de faire cette conquête. Ce sont d'abord les rois catholiques, ce sont ensuite les missionnaires et les théologiens qui se sont demandé si on avait les droits. Bien, ils ont établi plusieurs raisons, mais surtout deux. Dans l'ordre naturel, cette barbarie et donc la supériorité de la culture occidentale donnaient un droit de conquête avec aussi des obligations. Et puis l'évangile, la révélation, donnait un droit fondé donc sur l'ordre surnaturel. Et c'est très intéressant d'ailleurs que Vittorien, donc François de Vittorien, qui était un théologien, qui a tranché finalement cette question. Il disait que la donation qu'avait fait le pape des Amériques au roi catholique n'était pas un titre suffisant de domination. Parce que le pape n'était pas le maître de ce territoire. Et c'est intéressant parce que c'était à l'époque où il y avait l'Inquisition. Donc un théologien, il pouvait être en désaccord avec le pape dans des questions, voyez, de prudentielles ou... C'est que l'Inquisition persécutée, c'était les attaques contre l'unité et la foi. Les fruits de presque immédiat de la conquête, évidemment, c'est surtout ce qui compte, c'est au point de vue de la foi. Et bien, 50 ans après, on avait baptisé environ 15 millions d'Indiens. Et ils s'étaient baptisés nécessairement après une longue formation chrétienne, une conversion libre et volontaire. Donc presque la totalité, n'est-ce pas, des Indiens qui ont été convertis à la foi catholique. Et on établit dans 50 ans des quantités d'archevêchés, évêchés, paroisses, couvents, mais ce sont des chiffres incroyables. Je crois que c'est 4 archevêchés, 27 évêchés, 800 couvents religieux. Et puis l'Amérique, à ce moment-là, a donné beaucoup de saints. Beaucoup de saints. Sainte Rose de Lime, Saint Oribe, Saint François Solano. D'autres qui étaient tout de suite incorporés, n'est-ce pas, à la foi et à la culture. Sainte Rose de Lima, elle était dominicaine. Et puis il y avait beaucoup de saints parmi les missionnaires. Beaucoup de saints. Donc c'est clair que le point de vue de la foi, n'est-ce pas, c'est ça qui compte surtout. C'était vraiment une bénédiction inouïe de la divine providence. Car tous ces pays sont encore catholiques grâce à cet esprit-là. Ensuite, aussi dans l'ordre de la culture. On les a incorporés à la culture occidentale qui, grâce à cet effort, est arrivé à être la culture prédominante dans le monde. Et c'est là surtout par la langue. Les missionnaires, en arrivant dans ces pays, ils se sont trouvés devant une alternative, ou bien faire apprendre l'espagnol et le castillan aux Indiens, ou bien apprendre les langues indiennes. Eh bien, évidemment, ils ont choisi d'apprendre les langues indiennes. N'est-ce pas ? Et alors, ils ont établi l'alphabet pour les langues indiennes, et donc l'écriture. Et en même temps, ils ont appris le castillan aux Indiens comme véhicule pour apprendre les latins. Et les latins pour transmettre la culture gréco-latine, chrétienne, catholique. Donc l'espagnol n'était pour eux qu'un moyen de transmettre une culture et une religion, une foi. D'une part, ils ont protégé les langues, puisqu'ils ont établi l'alphabet, donc l'écriture, à tel point que les monuments linguistiques des langues indiennes sont postérieures à l'arrivée des Espagnols. pour en citer un exemple. Le chef d'œuvre de la littérature nahuatl, qui est la langue aztèque, c'est les Nicamoroa, qui est le récit des apparitions de Notre-Dame de Guadeloupe. C'est les monuments de, n'est-ce pas, dans cette langue-là. Eh bien, c'est lui qui l'a écrit, c'était un métis, qui parlait le castillan, qui parlait le latin, l'hébreu, le grec, et bien sûr, qui a écrit dans sa langue le nahuatl. Et c'est là, c'est 1570. Donc il n'y a pas eu, de même qu'il n'y a pas eu un génocide ethnique, il n'y a pas eu un génocide culturel, il n'y a pas eu un génocide linguistique. Tout à fait faux. Et même ils sont groupés, par exemple, les langues indiennes qui étaient apparentées, qui étaient de la même famille, ils sont réunis, les Espagnols, pour les garder, etc. Et au XVIe siècle, il y a des grands poètes, des poètes qui sont nés, n'est-ce pas, dans l'Amérique espagnole et dans la langue castillane. Et puis dans l'ordre social aussi. D'abord, on essaie d'établir, n'est-ce pas, pour vivre d'une façon civilisée dans des villes. Et puis, à cause du métissage, de l'assimilation raciale, ils ont été incorporés, et même en gardant leur rang, les Espagnols respectaient en général, par exemple, la noblesse de sang. Et donc, ceux qui étaient des sangs, disons, nobles parmi les Indiens, ils s'étaient incorporés à la même couche sociale des Espagnols. Et c'est là. C'est la providence qui l'a fait, n'est-ce pas? Cela a été permis parce que l'émigration espagnole était très lente. Donc cette assimilation s'est faite doucement. Ils ont donc établi vraiment la vie en cité. Et ils ont même établi le travail pour les Indiens, parce qu'évidemment c'est un des défauts des Indiens qui sont très nonchalants, n'est-ce pas? Par nature, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait tout un système pour les obliger au travail avec un sens chrétien. Et évidemment, l'obligation du. C'est là la naissance, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la encomienda. C'était des Espagnols qui étaient choisis, c'était des hidalgos, donc fils de quelqu'un. Qui était choisi, qui était, c'est pas bien, trié pour pouvoir aller en Amérique, et qui avait des Indiens, ils sont sous ses ordres, mais il était obligé de les garder, les protéger, et surtout point de vue et spirituel. C'est pas. Donc il avait répondu par leur formation dans la foi catholique. C'était un système, c'est pas, une espèce de patronat, de paternalisme. Et c'est là établi donc une société où a régné la paix, la prospérité, la civilisation et l'unité religieuse pendant 3 siècles. Car, vous voyez, c'est un des faits qui détruit totalement les critiques de la légende noire. C'est pas ce qu'on appelle la légende noire qui est née des pays protestants qui ont fait la colonisation dans l'Amérique du Nord, particulièrement l'Angleterre et l'Hollande, et qui parlent des génocides, par exemple. Bon, il suffit d'aller à l'Amérique latine pour voir que la plupart des gens, ce sont des métis. Alors si on a exterminé les Indiens, comment est-ce qu'il y attendait eux? On dit qu'il n'y avait pas plus de 20 millions dans toute l'Amérique. Et puis, il faut aller voir en Amérique du Nord s'il y a des métises. Donc, vous voyez, c'est vraiment. sont les faits qui détruisent ces critiques. Comment est-ce qu'il n'y a pas eu, après la conquête immédiate, donc mettons après 1550, il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de guerre entre les Espagnols et les Indiens? Comment cela est possible si on le tenait par la force? Voilà donc l'état des Indiens, les fruits qui a produit la conquête. Quels ont été les moyens? Et c'est là qui nous intéresse à nous, n'est-ce pas? D'aller plus au fond, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que c'est surtout l'application totale, entière, du principe catholique, c'est-à-dire de l'unité de l'Église et l'État. La collaboration du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. On peut même parler, c'est le pape Pie XII qui l'a fait, d'une royauté coloniale de notre Seigneur Jésus-Christ. Car on établissait partout la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les conséquences. C'est donc les Espagnols, à ce moment-là, ils savaient clair que ce qui comptait surtout, c'était les saluts. Et l'unité de la foi par conséquence. Et c'est là par le règne de notre Seigneur et de son Église. Et voyez, je pense que c'est là justement la différence entre la colonisation de l'Amérique espagnole et la colonisation, par exemple, de l'Afrique ou de l'Orient. Évidemment, les pays anglo-saxons, ils ont fait une colonisation en général, c'est pas pour avoir des factories, c'est pas au point de vue économique, c'est pas, c'était le but. La France, malheureusement, n'est-ce pas, a fait une chose intermédiaire, n'est-ce pas? L'État n'était pas tout à fait compénétré avec l'Église pour s'y établir, mais vous voyez, n'est-ce pas, avec bienveillance, les missionnaires et tout. Et alors, c'est là qu'on voit, n'est-ce pas, des différents degrés, des fruits. Par exemple, nous-mêmes, dans la fraternité, aujourd'hui, un des pays qui répond le plus dans l'Orient, ce sont les Philippines. Et puis, il y a d'autres pays où c'est presque impossible de pénétrer, comme l'Inde, ou... Donc c'est l'application totale, entière, du principe catholique, c'est ça qui a donné les fruits. C'est l'unité de la foi, c'est le dogme qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église, hors de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut toujours défendre ces principes. Il y a deux exemples sur cela. D'abord, le patronat. Les papes ont donné au roi catholique, Isabelle Ferdinand, un patronat sur tous les territoires qui venaient d'être découverts, n'est-ce pas? Et ces patronats consistaient dans des droits, des dispositions presque discrétionnelles, au point de vue canonique, pour établir... des évêchés, des paroisses, fonder des couvents, et faire, refaire. Et ces patronats, ces droits de patronat des rois espagnols, a duré 3 siècles. C'est un fait presque unique dans l'histoire. Mais c'est que les papes se sont rendus compte qu'il fallait faciliter tout pour l'implantation de la foi dans ces pays-là. Et alors ils ont donné, au point de vue canonique, des pouvoirs aux rois qui des soins ne leur appartiennent pas. Un autre exemple de cet esprit, c'est ce qu'on a appelé le requerimiento. espagnol, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas comment traduire. C'est en français, mais je vais vous lire un texte qui, français qui l'illustre bien. Car on a accusé, n'est-ce pas, l'Espagne d'avoir imposé par la force la foi, donc d'obliger à accepter la foi catholique. Et cela, c'est encore un mensonge, bien sûr, d'une pratique qui était celle-ci, vous allez voir. Le requerimiento, c'était un acte en belle et due forme composé par des équipes de théologiens de Salamanque ou de Séville, par lesquels on informait les indigènes qu'ils devenaient sujets de leur majesté et par lesquels on les invitait à se laisser instruire à la religion chrétienne, non pas à se faire chrétien. L'acte était lu par les conquistadors lui-même devant une croix plantée à cet effet en présence d'un notaire royal et traduit au notable indien présent. Et voilà un paragraphe de ce texte. Par conséquent, du mieux que nous pouvons, nous vous prions et nous vous requérons que vous entendiez bien ce que nous vous disons et que vous preniez pour l'entendre et délibérer le temps qui serait juste pour que vous reconnaissiez l'Église comme maîtresse et supérieure de tout le monde et les souverains pontifes appelés papes et en son nom les rois et la reine en son lieu comme supérieur et seigneur et roi de ces îles et terres fermes en vertu de la dite donation et que vous consentiez et donniez lieu à ce que ces pères religieux vous expliquent et prêchent ce qui suit. Ils ne vous obligeront pas à vous faire chrétien, ils vous prêcheront seulement. Sauf si vous, informé de la vérité, vous vouliez vous convertir à notre sainte foi catholique, comme l'ont fait presque tous les habitants des autres îles, si vous ne les fassiez pas, c'est-à-dire consentir à cette prédication. Et si à cela vous opposiez un retard malicieux, nous vous certifions qu'avec la grâce de Dieu, nous entrerons puissamment contre vous. Vous voyez, c'était musclé, bien sûr. N'est-ce pas ? Mais ce qu'on imposait, c'était d'entendre les religieux, leur prêcher la vraie religion. Ensuite, ils étaient libres de se convertir ou pas. On ne les obligeait pas. C'est les textes même qu'on lisait, n'est-ce pas, aux Indiens à chaque fois. Parce qu'il ne faut pas juger, n'est-ce pas, les temps passés comme avec les idées ou les mœurs qui règnent aujourd'hui, n'est-ce pas. Voilà donc deux exemples de cette unité, n'est-ce pas. Évidemment, aujourd'hui, ça nous fait un peu, n'est-ce pas, la liberté, les Indiens. Ce que les Espagnols, à cette époque, tant qu'il y a encore, n'est-ce pas, avec une mentalité médiévale, eux, ils n'avaient pas peur de reconnaître que leur culture, leur civilisation était supérieure et que leur religion était la seule vraie. Et donc, pour eux, c'était très simple. C'est comme un enfant et un père. Le père impose certaines choses à son enfant. Évidemment, ce paternalisme-là, aujourd'hui, est absolument condamné, n'est-ce pas ? Et on voit les résultats. Et c'est ainsi donc qu'en Espagne, il y a eu une vraie croisade d'évangélisation. C'était une vraie croisade. On s'enrôla en masse pour aller dans les Amériques prêcher des Indiens. Par exemple, une loi qui ont établi les rois, qui a été ensuite certifiée par le cardinal Cisneros, qui a été qui revenait d'Espagne à la mort de Ferdinand. Ensuite, pour Charles Quint, Philippe II, etc., n'est-ce pas ? Chaque navire qui partait en Amérique, qui revenait d'Espagne, emportait des missionnaires avec. C'était obligatoire qu'il y ait des missionnaires à chaque bateau qui partait pour les Amériques. Et on faisait un choix, il y avait un choix très exigeant de missionnaires. Donc les rois avaient demandé aux supérieurs des ordres de faire un choix vraiment extrême des missionnaires qui allaient en Amérique. Un autre exemple, c'est que l'Inquisition était chargée d'empêcher qu'il y ait des hérétiques qui aillent en Amérique. Donc, même les laïcs qui allaient en Amérique devraient nécessairement être des catholiques, pas soupçonnés d'hérésie ou condamnés par hérésie. Et c'est là pour protéger la foi, vous voyez, c'était clair, net, n'est-ce pas ? Le but principal, c'était ça, c'était l'unité de la foi. Évidemment, ces moyens, qui sont les moyens de toujours de l'Église catholique, appliqués à une circonstance nouvelle, ont été accompagnés par des moyens tout à fait surnaturels, beaucoup de miracles, beaucoup d'apparitions de Notre-Dame. Et on pourrait dire même que, par exemple, l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, c'était vraiment le couronnement, n'est-ce pas ? C'est ça qui a assuré la fusion entre les Indiens et les Espagnols et qui a permis vraiment de fonder cette société chrétienne. Par exemple, Colomb, il a bénéficié d'une apparition de Notre-Dame. 4 ans après son arrivée dans la République dominicaine, pendant un combat qui affrontait 300 Espagnols avec environ 70 000 Indiens qui les avaient, n'est-ce pas, encerclés dans une montagne qui surplombe, qui est très belle. Et bien là, il y a une apparition de Notre-Dame de la Merci qui a été la cause de la victoire des Espagnols, et une victoire sans trop de victimes, évidemment, et qui a permis que les Indiens ils reconnaissaient l'effet surnaturel qu'ils voyaient. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir visiter ces sanctuaires consacrés à Notre-Dame. Il y a la croix, la première croix que Colomb a plantée dans les Amériques. C'est là aussi qu'a été établi par la suite le premier diocèse des Amériques. C'est dans la République dominicaine. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que ce sont deux faits parmi beaucoup d'autres qui, comment la divine providence a l'occasion d'aider cette entreprise. Quel était le fondement qui a permis cette épopée, comme dit le pape Pie XII? Eh bien, il y a deux caractères qui font partie essentielle de l'Espagne et du Portugal. Et c'est l'unité de la foi et la dévotion mariale. Je pense que c'est là vraiment qu'on voit comment la providence, puis toujours à préparer, c'est pas, chaque pays à sa vocation, et bien le bon Dieu, il a préparé l'Espagne pour cette entreprise qui est la plus élevée qui a fait l'Espagne, n'est-ce pas, tant que nation catholique. Et ainsi, on peut remonter très loin, c'est l'apôtre Saint Paul qui a prêché en Espagne, et puis très particulièrement l'apôtre Saint Jacques, qui est les proto-martyrs, n'est-ce pas, de l'Église catholique. Eh bien, l'apôtre Saint-Jacques, il a bénéficié d'une apparition de Notre-Dame. C'est la seule apparition de la très sainte Vierge Marie en vie. Tant qu'il était encore en vie. Et c'est l'apparition à Saragosse de Notre-Dame du Pilar. Il y a là toujours le Pilar où Notre-Dame est apparue à Saint-Jacques qui pleurait parce que il n'avait pas beaucoup de résultats parmi, n'est-ce pas, dans sa prédication. Mais voyez déjà un double fondement clair, n'est-ce pas, dans cette vocation de l'Espagne. C'est la force de la foi et la dévotion à Notre-Dame. Puis cela était encore, c'est encore plus clair dans la fondation de l'Espagne en tant que royaume. C'est la conversion des Visigoths, des Recaredo, qui a été converti à la suite du martyre de son frère, Saint Herménégilde, qui a refusé de recevoir la communion d'un évêque arien. C'est son père qui l'a mis en prison parce qu'il était catholique, et qui a voulu, la nuit des Pâques, l'obliger de recevoir la communion de cet évêque hérétique arien. Et alors il a dit, je refuse de recevoir la communion d'un hérétique. Et il a été martyrisé. Et le pape Saint-Grégoire le Grand, il attribue la conversion de l'Espagne, en tant que nation, au martyr de Saint-Herménégilde. C'est son frère qui s'est converti au catholicisme. Et puis il y a eu bien sûr l'invasion arabe en Espagne. Et puis il y a ce petit noyau qui restait au nord, dans les Asturies, dans la Cantabrie aussi. C'est mon pays d'origine. Et ils ont obtenu une victoire inopinée à Covadonga, grâce à une apparition de Notre-Dame. C'est là que Pelayo a été proclamé roi et c'est le début de la reconquête de l'Espagne. À partir des Asturies, peu à peu, on a reconquis. L'Espagne a commencé à être missionnaire d'abord en elle-même et puis bon. Vous voyez, ça c'est aussi une préparation de la divine providence. C'est clair. Et puis les rois catholiques. Car évidemment, par l'invasion arabe, l'Espagne était une nation multiraciale et pluriconfessionnelle, comme on dirait aujourd'hui, bien que la foi des catholiques était toujours plus ou moins préservée, n'est-ce pas ? Bien, ce sont les rois catholiques qui ont rétabli cette unité catholique dans l'Espagne. Et là, vraiment, Isabelle la catholique, je pense que c'est une sainte femme, qui était en même temps un génie politique. Elle a établi vraiment les fondements de l'Espagne. Et fondé cela sur l'unité de la foi. C'est pourquoi la première tâche a été de terminer la reconquête de l'Espagne, l'expulsion des morts, l'expulsion des juifs, parce que cela mettait en danger la foi est donc l'unité catholique. Et donc l'unité politique de l'Espagne, c'est ça. C'est la raison, il n'y a pas d'autre. Et c'est elle aussi qui a réformé vraiment l'Espagne au point de vue religieux. C'est elle qui a entrepris la réforme des monastères, de religieux, de religieuses, du clergé. Bon, c'est là que nous sommes allés trop loin, n'est-ce pas ? Et puis aussi le cardinal Cisneros, qui a été confesseur, puis il a été régent de l'Espagne, c'était un franciscain d'une haute sainteté, qui, en même temps qu'il établissait les lois pour la conquête de l'Amérique, il dirigeait personnellement la construction des hôpitaux. Il fondait l'université d'Alcalá de Henares, où s'est faite la première Bible polyglotte. Donc c'est l'âge d'or de l'Espagne. Et évidemment, c'est là, ce n'est pas une coïncidence. Ça, c'est la divine providence qui a voulu, n'est-ce pas, à ce moment-là, et préparer l'Espagne pour cette entreprise. De même pour le Portugal, n'est-ce pas, qui s'est défait des Maures beaucoup plus tôt que l'Espagne. Presque au XIIe siècle, il n'y avait plus d'Arabes au Portugal. Et le Portugal a commencé beaucoup plus tôt la navigation dans les mers. C'est le Portugal qui a ouvert, n'est-ce pas, les voies de la navigation vers l'Afrique. C'est ensuite l'Espagne qui a suivi. Or, cela a permis aussi la conquête. Et là, je pense qu'il y a aussi une préparation providentielle. Mais évidemment, il y a eu ensuite tout cela s'est écroulé. L'origine, c'est la Renaissance, c'est le naturalisme, l'humanisme. C'est surtout aussi la réforme, le rationalisme et l'esprit, au point de vue politique, l'esprit libéral et l'esprit de la démocratie libérale. Au moment où l'Espagne commence, elle aussi, n'est-ce pas, à tomber dans ce libéralisme, et au moment où il y a les guerres d'indépendance dans les Amériques, et bien il y a les virus et la révolution qui arrivent dans tous ces pays. Et c'est donc plutôt dans l'Amérique espagnole, c'est ce qu'on pourrait appeler la démocratie rossonienne qui s'établit. C'est-à-dire plus des principes, n'est-ce pas, l'égalité, etc. Tandis que dans les Amériques du Nord, c'est une démocratie issue plus directement de la réforme du calvinisme. Et malheureusement, aujourd'hui, tous ces pays-là subissent, on a subi, n'est-ce pas, l'influence de la révolution, de cette démocratie rossonienne. Et bien actuellement, pour finir, n'est-ce pas, de détruire ces pays catholiques, il y a l'influence de la démocratie libérale calviniste, qui est encore beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Et soit dit en passant, n'est-ce pas, c'est là l'origine des injustices. Vous voyez, notre mensonge, ou parfois c'est de l'idiotie. On entend très souvent même des évêques, n'est-ce pas, dans l'Amérique espagnole, qui disent que les injustices actuelles ont sa source dans la conquête des Espagnols. Et il ne tient pas compte qu'il y a eu une vraie révolution dans tous ces pays, comme en Europe, n'est-ce pas? C'est la même erreur qui a détruit la chrétienté en Europe, c'est la même erreur qui détruit cette chrétienté dans l'Amérique. Or, la source de ces injustices, eh bien, c'est l'établissement de la démocratie, et même, on pourrait dire, de l'égalité. Cette égalité, n'est-ce pas, absolue, eh bien, elle va au détriment, très souvent, de celui qui est plus faible. Si on met tous, n'est-ce pas, l'égalité par rapport, n'est-ce pas, au point de vue économique, par exemple. N'est-ce pas, on met tous dans le pied d'égalité. Eh bien, ceux qui sont plus habiles, plus intelligents, plus méchants, eh bien... ils nous volent l'argent, ça c'est clair, c'est ça que nous voulions, n'est-ce pas? Il y a tous les biens des chrétiens qui passent dans les mains d'eux, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas dans l'histoire de l'Amérique de crises sociales, des troubles avant le 19e siècle. C'est donc bien l'abandon de ces principes qui a produit c'est que nous vivons aujourd'hui dans l'Amérique espagnole, et pas le contraire. Et le... vraiment pour l'Amérique espagnole et pour l'Espagne d'ailleurs, ce qui a été le plus grave, c'est le Concile Vatican II, n'est-ce pas, le deuxième, le Concile Vatican. La crise de l'Église, c'est le coup, n'est-ce pas, définitif pour ces nations-là. Il est intéressant de voir le changement d'opinion, de vue, des jugements qu'il y a eu, n'est-ce pas, dans l'Église, dans la hiérarchie catholique. Vous pouvez lire tous les papes de l'histoire jusqu'à Pie XII, et bien ils ont tous loué la colonisation de l'Amérique espagnole. Et c'est à partir de là qu'ils commencent, n'est-ce pas, à critiquer. Rien que ça, vous voyez, ce sont des choses qui nous rassurent, n'est-ce pas, dans notre vision, dans notre jugement. Ce qui a été loué toujours par l'Église, n'est-ce pas, par les papes et tout, aujourd'hui, est attaqué, et vice-versa. Alors, c'est bien la tradition des papes et de l'Église contre des hommes d'Église pénétrés d'esprit modernistes. Et c'est que je vous disais que ce qui est essentiel en Espagne, c'est l'unité de la foi et c'est la dévotion mariale. Eh bien, ce sont deux choses qui ont été démolies par le Concile Vatican II. Et particulièrement, n'est-ce pas, l'unité de la foi, l'écuménisme, qui a favorisé l'entrée des sectes dans tous ces pays. C'est après les conciles que les protestants ont fait irruption dans ces pays-là. Malgré donc la décadence qui vient du dernier siècle, et ils n'arrivaient pas encore à pénétrer dans ces pays. C'est après les conciles vaticans. Évidemment, la liberté religieuse était tragique pour ces pays-là. Car ce sont des pays qui ont besoin d'une, plus que d'autres, d'une surveillance de la part de pouvoir temporel, même au point de vue de la foi, n'est-ce pas? Et donc, la liberté religieuse a fait beaucoup de tort aux pays hispanophones en particulier. Je pense que c'était la clé pour... Vous voyez l'Espagne, n'est-ce pas? C'est l'année 67 qui a été établie la liberté religieuse en Espagne, par dépression du Vatican. Vous voyez? Même si c'était pas parfait avec Franco, mais bon, il y avait quand même. C'était toujours la foi catholique était la foi de l'État. Et c'est là que portait des biens immenses. Et pour l'Amérique, c'est pareil. Je pense qu'actuellement, il n'y a que l'Argentine qui a la religion catholique pour religion d'État. Évidemment, cela n'a pas trop d'effet aujourd'hui parce qu'on a déjà tellement, n'est-ce pas, mis au point les ennemis de l'Église, les choses que cela n'a pas trop de... Par exemple, le président, il a voté les divorces. Et pourtant, n'est-ce pas, il est catholique. Mais je pense que ça ne va pas durer longtemps, n'est-ce pas? Le Paraguay, par exemple, la séparation d'Église-État a été proclamée l'année dernière. Et ce sont les évêques paraguayens qui ont pressionné le gouvernement pour établir la liberté religieuse. Or, c'est un pays qui a 96% des catholiques et 4% du reste. Et ensuite, l'inculturation. Car on fait une involution, vous voyez. C'est-à-dire, on essaie de remettre ces nations et ces gens dans l'état dans lequel ils étaient avant l'arrivée des Européens. Et alors, il y a les fausses religions, surtout afro-africaines, qui ont passé au Brésil, par exemple. Et il y a parmi les Indiens qui restent, il y a encore l'anthropophagie, le cannibalisme qui revient, etc. Des pratiques idolâtres, mais vraiment, n'est-ce pas, les plus basses, quoi. Donc l'inculturation, voilà. C'est inouï, n'est-ce pas. Quand on pense, c'est la démolition systématique. Et c'est pas favorisé par les hommes d'église. On exige par exemple l'établissement de la démocratie. À chaque fois qu'il y a une dictature qui met un peu de l'ordre, n'est-ce pas, il faut rétablir la démocratie. Et même si des fois on déplace les papes au Paraguay, Stroessner qui tombe. Au Chili, Pinochet qui tombe. C'est clair, n'est-ce pas. Je ne dis pas que le pape le fait, n'est-ce pas, lui-même conscient, n'est-ce pas. Je pense qu'il est prisonnier de ses idées, quoi. Ce sont des idées qui, libérales, modernistes, qu'il a, qui permettent que les ennemis de l'Église se servent de lui pour détruire l'Église. Bon, cela, Monseigneur Lefebvre l'a expliqué beaucoup de fois, n'est-ce pas, mais même au point de vue politique, vous voyez. Et tous les mots actuels de l'Amérique latine trouvent sa source dans le Concile Vatican II. Même, par exemple, la théologie de la libération, donc les approches vers le marxisme, cette synthèse entre catholicisme et marxisme. Et bien sûr, aujourd'hui, on rejette les excès, mais on préconise toujours les causes, on les favorise. Donc. Ils disent, non, il faut pas, un catholique ne peut pas être marxiste. Mais la théologie de la libération a des éléments qui sont très bons et il faut défendre les pauvres et patati patata. Et puis, on y va. Et puis, le Concile Vatican II était aussi anti-marien, n'est-ce pas? Et c'est ça qui sauve encore ces pays-là. C'est tellement dans le peuple la dévotion à Notre-Dame que. Et même avec de l'ignorance et tout, ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à enlever ça. Les prêtres, ils poussent, n'est-ce pas, pour enlever cette piété. Et c'est là que nous voyons une fois de plus comment Notre-Dame est la gardienne de la foi, n'est-ce pas. Finalement, c'est elle le dernier rempart pour toutes ces nations, tous ces peuples. Il n'y a pas d'autre, et bien, ils sont très attachés. Par exemple, au Mexique, à Notre-Dame de Guadeloupe, il y a tous les années, je ne sais pas, 6 millions de personnes qui passent au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. En Argentine, s'il y a un pèlerinage à Notre-Dame de Luján, eh bien, il y a toujours 1 million de personnes qui vont. C'est ça encore qui. Évidemment, c'est avec beaucoup d'ignorance et tout, n'est-ce pas, mais. Et là, le Concile a fait beaucoup de tort, parce que les prêtres, ils vont contre le rosaire et contre la dévotion de Notre-Dame, évidemment. Elle a été mise de côté par cause de l'écuménisme, bien sûr. Voilà donc quelques réflexions sur la conquête et l'évangélisation de l'Amérique. Et comme conclusion, je pense que nous n'avons que, n'est-ce pas, à redire ce qui. A dit le pape Saint Pie X, n'est-ce pas? Et au sujet de la restauration, c'est que la chrétienté n'est pas inventée, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'inventer. Elle a existé, il suffit de la rebâtir sur les fondements éternels qui nous donne l'Église catholique. Et puis cela nous montre aussi qu'il faut être très fort, n'est-ce pas, dans notre foi, dans notre espérance. Et il faut faire une croisade de reconquête par le moment, c'est ça, n'est-ce pas. C'est une reconquête d'abord dans l'Europe, ça c'est une reconquête par la suite, n'est-ce pas, dans tous les pays. car cela a été promis, n'est-ce pas, par notre Seigneur et promis par la Sainte Vierge Marie. Donc notre tâche, c'est de reconquérir, refonder la chrétienté dans l'Europe. Car là, il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? Je pense qu'une restauration du règne social de notre Seigneur et son établissement dans le monde entier ne peut venir que de l'Europe. Ça, c'est clair. Et de la conversion à nouveau des nations, du retour des nations, n'est-ce pas, comme la France, l'Espagne, et même, je dirais, l'Angleterre, ce sera un moyen pour rétablir ou établir ce règne qui a été, n'est-ce pas, apparemment annoncé dans les apparitions de Fatima. Donc, notre tâche, c'est de résister très fortement dans la foi, dans l'espérance, et de reconquérir. Il y a vraiment nous avons gardé cet esprit en même temps des combattants, des soldats, des croisés et aussi d'apôtres, de missionnaires. Voilà.
Chantez le Salve Regina. Père, Fils, Saint-Esprit, Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve, Ave Clamamus, Exsulae Spiritu,
Adocatamus. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, Notre-Dame del Pilar, Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame de Luján, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.